J'aimerais commencer ce soir par faire un peu de publicité pour la librairie. Présenter brièvement quatre livres qui ont trait au thème de ces soirées, donc sur la Bible. Tout d'abord, un livre de René Pache, L'inspiration et l'autorité de la Bible, qui traite de différents aspects, y compris le canon de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, mais aussi d'autres thèmes touchant à la Bible, la question de l'autorité, par exemple, la question de transmission et d'autres. Donc, René Pache, L'inspiration et l'autorité de la Bible. Ensuite, un livre d'un anglais, F.F. Bruce, Les documents du Nouveau Testament, peut-on s'y fier? Donc là, c'est uniquement par rapport au Nouveau Testament. Il y a aussi un chapitre qui traite du canon et de la transmission des manuscrits du Nouveau Testament. Un autre livre de dogmatique de Boyce, Le Dieu souverain. Donc c'est le premier volume qui traite aussi d'une part de la personne même de Dieu, de ses attributs, mais aussi de la parole, de son autorité et de sa transmission. Et puis un quatrième ouvrage qui va dans le même sens, Sur les traces de la Bible, édité par l'Action biblique, la Maison de la Bible, et là aussi, alors même illustré, bien illustré et bien commenté. C'est pas toujours, souvent les livres qui ont des images n'ont pas un bon texte, ou ceux qui ont un bon texte n'ont pas d'image. Eh bien ici vous aurez tous les deux. Quand j'ai discuté avec l'étude, alors je crois que ça vaut de la peine, pas seulement de participer à des retraites, mais des fois faire le plein d'ouvrages pour le reste de l'année. Et puis si vous achetez les livres, ne faites pas comme moi, ne les laissez pas toujours sur une étagère de votre bibliothèque sans les ouvrir. C'est même arrivé déjà d'acheter deux fois le même livre, mais je ne me souviens plus que je l'avais déjà acheté. Mais je trouve toujours que c'est un bon investissement d'acheter de bons livres. Alors hier soir, nous avons parlé de la formation du canon. Ce soir, ce sera la deuxième partie de ce thème, en fait la clôture du canon de l'Ancien Testament, et puis demain soir, alors nous parlerons du canon du Nouveau Testament. La formation du canon de l'Ancien Testament, je rappelle en 30 secondes ce que j'ai dit hier soir en une heure, c'est extrêmement simple finalement. Les principes de base sont extrêmement simples. Dieu a appelé des prophètes. Ces prophètes ont parlé. Plus tard, ces prophètes ont mis par écrit un certain nombre de leurs paroles. Le peuple, en tout cas à la fin de la vie, a reconnu de manière unanime le ministère de ces hommes et l'autorité. Et donc, ils ont pris leurs écrits et les ont gardés fidèlement, pas n'importe où, mais entre autres à côté de l'arche, donc dans un lieu extrêmement sûr, parce que ils avaient l'autorité du Seigneur. Donc, la formation du canon, elle est extrêmement simple, le principe est extrêmement simple, même si l'Écriture ne donne pas une foule de renseignements à ce sujet. Il y a juste des petits éléments ici et là qui nous montrent que c'est effectivement ce qui s'est passé, puisque l'Écriture existait déjà du temps de Moïse. J'ai mis ici quelques éléments, je sais que c'est difficile pour ceux qui sont tout au fond de pouvoir lire ce que j'ai mis sur ces feuilles, je n'ai pas trouvé de feutre plus gros, mais je vous promets que si j'écris quelque chose demain soir, je prendrai un feutre plus gros pour que vous puissiez le lire. Je vous présente juste ma femme qui vient d'entrer dans l'auditoire. Alors, dans un premier temps, nous allons voir quels sont les livres qui ont été discutés. C'est pas certains livres de l'Ancien Testament ont été discutés. Est-ce qu'il faut vraiment les reconnaître comme autoritaires? Et trois livres ont tout particulièrement été discutés, c'est le livre des Proverbes, le livre de le Cantique des Cantiques et le livre d'Esther. Dans un deuxième temps, nous allons nous pencher sur les livres qui ont été rejetés, ou que certains semblent avoir rejeté. Alors on verra qu'il y a plusieurs écrits qui sont mentionnés dans l'Ancien Testament qu'on n'a pas inclus dans le canon. Alors moi j'en ai compté 16. et la question aussi du Pentateuque samaritain, à savoir pourquoi les Samaritains n'avaient dans leur Bible que le Pentateuque, et pourquoi pas les autres livres. Ensuite, il y a la question des Sadducéens qui avaient certaines croyances particulières concernant les choses de Dieu. En particulier, ils rejetaient certaines doctrines comme la résurrection et ne croyaient pas aux anges. Alors, est-ce que cela veut dire que les Sadducéens rejetaient une partie du canon? Et puis, en troisième partie, nous allons nous pencher sur la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament, qui contient un certain nombre de livres supplémentaires, qui sont inclus dans les Bibles catholiques, mais pas dans les Bibles protestantes. Et nous allons nous pencher sur ces livres supplémentaires pour en voir quelle est leur nature. Alors, d'emblée, un mot d'avertissement. Ce soir, nous allons surtout étudier ce qu'il ne faut pas écouter, d'une certaine manière. Ce matin, c'était comment tendre l'oreille. Ce soir, c'est comment vous boucher les oreilles. Vous me direz, mais c'est vraiment nécessaire. Mais vous savez, parfois, un enseignement par contraste est aussi utile. Le livre des Proverbes est plein de contrastes. C'est bien joli de voir la leçon du fidèle qui est béni par Dieu, mais parfois, il vaut la peine de poser le regard sur le méchant qui est maudit par Dieu, pour en tirer la bonne leçon. Hier soir, j'ai brièvement parlé de Allah, n'est-ce pas? Eh bien, quand on étudie l'islam et la notion qu'elle donne de Dieu, on se rend compte de toute la différence du Dieu de la Bible. Et cela nous encourage d'autant mieux à aimer et adorer notre Seigneur. Alors parfois, un enseignement par contraste est utile, ce sera un petit peu le cas ce soir. Et ça nous permettra peut-être d'autant plus d'apprécier les textes qui, eux, sont canoniques et normatifs et qui se trouvent dans nos Bibles. Tout d'abord, les livres discutés. Les Juifs ont, à certaines périodes, discuté en ce qui concerne le livre des Proverbes, le livre d'Esther et le Cantique des Cantiques, pour savoir si ces livres étaient vraiment normatifs. Alors certains ont dit, puisqu'ils ont discuté de ces livres, ça voulait dire qu'ils avaient un doute. Pas nécessairement. Quand vous posez une question, ça ne veut pas dire que vous avez nécessairement un doute ou que vous voulez rejeter telle ou telle chose. Et vous désirez des fois avoir un éclaircissement, être sûr que c'est vraiment vrai. Et je crois que c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que tous les livres de l'Ancien Testament, les 39 livres qu'on a dans nos Bibles, ont été rapidement acceptés dans le canon. Mais un moment plus tard, par exemple vers le 1er siècle après Jésus-Christ, certains juifs discutaient encore entre eux et disaient « Ouais, mais quand même j'ai un problème avec le livre des Proverbes, ou avec le Cantique des Cantiques, ou avec le livre d'Esther. » Alors, quelle est la nature de ces problèmes? En tout cas, ils n'avaient pas de questions concernant l'authenticité de ces livres, ni la personnalité des auteurs, mais leurs questions touchaient au contenu. Est-ce que le contenu est en harmonie avec les autres textes de l'Écriture? Alors, pour le livre des Proverbes, il y avait des questions à cause de deux versets. Au chapitre 26, il y a les versets 4 et 5 qui semblent contradictoires. Puisqu'il est dit ceci, « Ne réponds pas à l'insensé selon sa stupidité, de peur que tu lui ressembles toi-même. Réponds à l'insensé selon sa stupidité, de peur qu'il ne devienne sage à ses propres yeux. » Ils ont dit, mais on dit une chose d'abord et ensuite l'inverse. Alors, est-ce qu'il y a une contradiction? Bien sûr que l'auteur ici a volontairement placé l'un à côté de l'autre ces deux maximes pour que la tension nous saute aux yeux. Impossible de ne pas la voir. Et il veut nous dire, dans certaines circonstances, il faut agir d'une certaine manière. Et dans d'autres circonstances, il faut agir d'une autre manière. Peut-être que c'est pas les insensés, ils nous irritent souvent. Ah, mais ce qu'ils sont stupides, ce qu'ils sont bêtes. Et puis, on est tellement énervé qu'on a envie de rentrer dans le cadre. Mais simplement, en faisant cela, on ne devient pas très sage. Ne réponds pas à l'insensé selon sa stupidité, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Mais si nous sommes tout à fait en paix, et dans le calme, et dans la sagesse, on peut reprendre l'insensé, alors faisons-le. Réponds à l'insensé selon sa stupidité, de peur qu'il ne devienne sage à ses propres yeux. Et donc les juifs ont discuté du livre des Proverbes, mais ce n'était pas une mise en doute de l'authenticité et de l'autorité de ce livre. Il y avait des questions, et puis après en avoir discuté, ils l'ont tout à fait accepté, et c'est tout à fait d'accord avec ce qui avait déjà été décidé. Parce qu'il faut bien comprendre, quand on parle du canon, que c'est jamais une autorité ecclésiastique qui décide quels sont les livres qui sont normatifs. C'est le peuple dans son ensemble qui a reconnu que ces livres étaient inspirés. Et tout ce qu'une autorité peut faire, c'est donner son approbation au consensus général. Le concile de Jamina, qui s'était rencontré un moment après Jésus-Christ, a fait cela. Il a dit, nous sommes d'accord avec l'opinion unanime qui a été celle du peuple juif depuis des siècles, que les 39 livres étaient normatifs. Le Cantique des Cantiques posait un problème, puisque, en apparence, ce livre paraissait assez charnel. Alors on disait, mais est-ce que vraiment ce livre peut venir de Dieu? Et puis, à la réflexion, bien sûr, dès l'origine de ce livre, mais aussi au Concile de Jamina, et plus tard, et même aujourd'hui, quand les chrétiens le lisent, à la réflexion, ce livre n'est pas seulement charnel. Il parle, bien sûr, de l'amour au sein du couple, mais aussi de l'amour de Dieu envers son peuple. Et donc, on peut lire ce livre sur différents niveaux. Et puis ensuite, le livre d'Esther posait aussi un certain nombre de problèmes. Un des problèmes, c'est que ce livre ne contient pas le nom de Dieu. Alors, est-ce qu'un livre peut vraiment être inspiré s'il ne mentionne même pas le nom de Dieu? Et non seulement le livre ne parle pas de Dieu, enfin, ne le mentionne pas, mais il ne parle pas d'institutions religieuses. Il n'y a aucune référence à des sacrifices, pas de référence au temple, à l'autel, au sacrificateur, au prophète, pas de prière. On se dit, mais c'est un livre tout à fait profane. Il n'est même pas religieux. Est-ce que vraiment Dieu a pu inspirer ce livre? Alors, bien sûr, quand nous étudions l'ouvrage, on se rend compte que le livre parle de Dieu, mais de manière sous-jacente, en quelque sorte. On discerne la souveraineté de Dieu qui guide toutes les circonstances. Mais enfin, c'était des questions qui s'étaient posées à propos du livre d'Esther. Donc, certains livres de l'Ancien Testament ont été discutés, mais cela ne signifie pas qu'il y avait des doutes profonds concernant ces livres. C'était plutôt pour être vraiment complètement sûr et au clair aussi sur les livres qui étaient contenus dans le canon juif. Ce canon juif a été clos à l'époque du Nouveau Testament et probablement qu'il a été clos à l'époque de Malachie, c'est-à-dire à la fin, à peu près vers l'an 400. Et un des plus grands historiens de tous les temps, et probablement le plus grand historien de l'Antiquité, qui est un historien juif, Flavius Joseph, mentionne dans un écrit apologétique contre Appion, au chapitre 1, paragraphe 8, et dans ce livre, il défend en quelque sorte la foi juive contre différentes attaques qui venaient de la part d'auteurs grecs. Et dans ce livre, il dit, nous juifs, nous avons reçu 22 livres. On verra jeudi soir pourquoi il parle de 22 livres et non pas de 39, parce que certains livres étaient regroupés. Il dit, nous avons reçu 22 livres que tout le peuple reconnaît comme autoritaires. Et ces livres s'arrêtent en quelque sorte. Il y a une succession de prophètes, mais à l'époque de Artaxerxès, ou à partir de cette époque, il n'y a plus eu de prophète. Et donc, Flavius Joseph, qui défend la foi juive, qui mentionne des éléments connus par tous les juifs, bien sûr, et s'appuie là-dessus pour dire qu'il n'y a plus eu de prophète depuis le temps d'Artaxerxès, c'est-à-dire à peu près 400 avant Jésus-Christ. Et donc le canon était clos à ce moment-là, il n'y a plus de prophète, donc il n'y a plus aucun livre qui s'est joint au canon. Nous passons maintenant au deuxième aspect, les livres qui ont été rejetés, les livres qui n'ont pas été inclus dans le canon. Vous savez que dans les livres historiques en particulier, il est fait référence de plusieurs écrits qui existaient à l'époque où où le livre de Josué a été écrit, où le livre de Salomon, de Samuel a été écrit, le livre des rois a été écrit, et ainsi de suite. Il y a plusieurs livres qui sont mentionnés, mais dont on a perdu la trace. Ils ne sont pas inclus dans le canon, et on ne les a même pas à disposition. Moi, j'en ai relevé 16, peut-être qu'il en existe davantage. Dans le livre de Josué, on parle du livre du juste. On mentionne, ce livre du juste est mentionné à nouveau dans 2 Samuel. Dans le livre des rois, on parle du livre des actes de Salomon. Et puis, deux ouvrages qui sont fréquemment cités dans le livre des rois, c'est le livre des actes des rois d'Israël et le livre des actes des rois de Juda. Et vous avez souvent ce petit refrain qui revient à la fin de chaque règne, lorsqu'il est dit, par exemple, dans le cas de Roboam, le reste des actes de Roboam et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda. Et il semble qu'il y avait, des chroniques qui relevaient tous les faits importants des différents règnes. Et l'auteur du livre des rois, qui se situe à peu près à l'époque de l'exil, utilise ces sources historiques pour écrire son livre des rois. Alors, on ne sait pas comment le Seigneur l'a guidé pour discerner ce qui était inspiré dans ces sources et ce qui ne l'était pas. Il y a un mystère ici, on ne sait pas comment le Seigneur l'a guidé, mais il a puisé dans ses sources. Mais ces sources elles-mêmes n'étaient pas entièrement normatives, dit-il. En tout cas, elles n'ont pas été incluses dans le canon, donc probablement que les Juifs ne leur reconnaissaient pas une autorité totale. Il y a beaucoup de livres qui sont très importants et très utiles, je l'ai mentionné 4 tout à l'heure. Mais tous ces livres que j'ai mentionnés, qui sont, par exemple, sur The Voice, n'est-ce pas, Le Dieu souverain, c'est un bon livre, achetez-le. Mais il n'est pas normatif. Il ne faut pas le lire et croire tout ce qu'il dit. Examinez-le à la lumière des écrits normatifs, c'est-à-dire la Bible. Il peut se tromper, mais d'une manière générale, il ne se trompe pas. Il est excellent. Alors, les Juifs avaient beaucoup de livres qui étaient de grande valeur, mais qui n'avaient pas le statut de livres canoniques. Alors, je mentionne ici juste les titres de ces livres, parce que ce serait trop long d'entrer dans le détail pour chacun. On parle du livre du roi de Juda, les chiffres des actes du roi David, 1 Chronique 27-24, les actes de Samuel le voyant, 1 Chronique 29-29, les actes de Nathan prophète, 1 Chronique 29-29, les actes de Gad le voyant, 1 Chronique 29-29, la prophétie d'Aïa de Silo, 2 Chroniques 9-29, les visions du voyant Jéhédo, 2 Chroniques 9-29, les actes du prophète Shemaïja et du voyant Ido, 2 Chroniques 12-15, le commentaire du prophète Ido, 2 Chroniques 13-22, le commentaire du livre des rois, 2 Chroniques 24-27, le prophète Ésaïe, 2 Chroniques 26-22, mais qui ne correspond pas au livre d'Ésaïe, c'est un autre texte, puisqu'il est fait question dans ce livre d'Ésaïe de la vie d'Ozias, et dans le livre d'Ésaïe, le livre canonique, on ne parle pas d'Ozias. Et puis encore le livre de Osaïe, 2 Chroniques 33, 19. Vous me dites, oui, mais parmi tous ces livres, il y a quand même des livres de prophètes. C'est pas, on a plusieurs fois parlé des livres de prophètes. Oui, mais pour une raison ou pour une autre, ils n'ont pas été inclus dans le canon. Et là, comme on ne dispose pas de ces ouvrages, on est finalement limité au niveau des hypothèses. On peut faire des hypothèses. Pourquoi est-ce que, des suppositions, pourquoi est-ce que ces livres n'ont pas été inclus? Bon, moi je vous livre une idée. Sans doute parce que ces livres n'étaient pas inspirés pleinement par Dieu comme les autres. Peut-être que le livre du prophète Iddo était écrit par un secrétaire, n'est-ce pas, et qui reprenait les textes de ce prophète, mais le prophète lui-même n'avait pas donné son approbation à ces textes. On ne sait pas. En tout cas, ces textes n'ont pas été inclus dans le canon. Et c'est à peu près tout ce qu'on peut dire sur ces livres, puisque on ne les a pas à disposition. Point suivant, le Pentateuque samaritain. Les Samaritains disposaient d'une partie de l'Ancien Testament. En fait, ils ne disposaient que du Pentateuque. Et certains ont dit, eh bien, ça veut dire qu'ils ont rejeté les autres livres. C'est vraisemblable. Et pourquoi est-ce qu'ils ont rejeté les autres livres? Alors, les libéraux proposent ceci comme explication. Ils disent, du temps d'Esdras, ce qu'on a vu un petit peu hier soir, il n'y avait que le Pentateuque qui était rédigé. Et les autres livres n'étaient pas encore rédigés. Or, du temps d'Esdras, il y a une séparation. Les Samaritains se sont séparés, ils ont accepté ce que les Juifs avaient à l'époque, mais comme les autres textes de la Bible, de l'Ancien Testament, ont été rajoutés plus tard, les Samaritains n'avaient pas ces livres-là. Ça, c'est l'explication des libéraux. Je pense qu'une explication qui est plus conforme à une position sur l'inspiration du texte biblique, puisque ces livres, en fait, tous les livres existaient du temps d'Esdras. Ils existaient. Alors, ce qui s'est passé, c'est probablement du temps d'Esdras, d'Esdras et Néhémie, il y avait certaines tensions. Vous vous souvenez que quand Esdras est revenu et quand Néhémie est venu, les Samaritains, c'est-à-dire les habitants de la région, voulaient se joindre aux Juifs pour les aider à construire la ville. Et les Juifs ont dit non, vous devez rester à l'écart, aussi par rapport au temple, vous devez rester à l'écart. Dieu nous a confié une tâche et c'est à nous d'accomplir cette tâche. Alors ils n'ont pas tellement aimé cette attitude. Et puis il y avait toujours un antagonisme entre les Samaritains d'une part et les Juifs d'autre part. Or à l'époque de Néhémie, il y avait certains prêtres qui étaient infidèles, qui en quelque sorte étaient assez ouverts, n'est-ce pas, écuméniques, ouverts pour les autres. Ils disaient, mais il faut accepter les Samaritains. On pourrait se marier avec eux, on pourrait épouser leurs filles. Et il y a toutes sortes de mariages infidèles qui sont rapportés dans Néhémie chapitre 8 à 10. Et Néhémie s'est fortement opposé à cela. Il a dit, vous avez tout à fait désobéi au Seigneur. Et il a demandé aux hommes de renvoyer ces femmes, et certains des sacrificateurs ou des responsables religieux ont dû quitter la communauté juive. Et c'est probablement ces juifs qui ont quitté la communauté juive, qui ont été tout de suite dans la communauté samaritaine, et qui ont été bien accueillis, n'est-ce pas? C'était les juifs qui étaient ouverts. Ils étaient prêts à accepter les samaritains, et les samaritains étaient prêts à les accueillir. Et donc les Juifs sont partis avec toute la Bible et sont allés vers les Samaritains. Le problème, c'est que les Samaritains, ils n'étaient pas prêts à entièrement se réformer et à obéir au Seigneur. Entre autres, ils disposaient déjà d'un lieu de culte sur le mont Gérasim. Alors ils disaient, ça c'est notre lieu de culte. Mais le problème, c'est que dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup de textes qui disaient que les Juifs devraient aller adorer à Jérusalem. Et alors, les Samaritains ont dit, tous les textes qui encouragent une adoration à Jérusalem, on va laisser tomber. Et on va garder seulement ceux qui ne parlent pas du lieu d'adoration. Alors, si vous faites le compte, c'est vite fait. n'y a pratiquement que les textes du Pentateuque qui ne mentionnent pas directement Jérusalem. Et à un des endroits où il y aurait pu y avoir confusion, ils ont changé le texte. Donc, le Pentateuque samaritain ne reconnaissait que le Pentateuque comme autoritaire, mais la communauté qui a pris position, ce n'était pas une communauté fidèle, mais au contraire, une communauté étrangère et une communauté qui était influencée par des juifs qui étaient ouverts, même trop ouverts. Donc on peut comprendre ici pourquoi les Samaritains n'avaient que le Pentateuque. Troisième question, concernant les livres qui ont été rejetés, touche aux Sadducéens. Les Sadducéens avaient certaines croyances particulières. Entre autres, souvenez quand Paul est à Jérusalem et qu'il est accusé. Je recherche juste à mettre dans mes notes pour voir où j'ai noté tout cela. Voilà, dans Actes 23:8, Paul s'écrit à un moment donné, c'est à cause de l'espérance et la résurrection des morts que je suis mis en jugement. N'est-ce pas? Il sent que les choses tournent au vinaigre, il est à Jérusalem, on l'accuse, et pour se défendre, il dit, je vais en quelque sorte diviser l'assemblée. Comme il est pharisien et sadducéen, il dit, c'est à cause de la résurrection que je suis arrêté ici. Alors, les pharisiens croyaient la résurrection, mais les sadducéens rejetaient la résurrection. Il dit, quand Paul dit cela, il se produisit une dispute entre les pharisiens et les sadducéens, et la multitude se divisa. Les sadducéens disent en effet qu'il n'y a pas de résurrection, ni d'ange, ni d'esprit, tandis que les pharisiens l'affirment. Et certains ont dit sous la base de cette parole, voyez, les sadducéens ne croient pas dans la résurrection, or ou quels sont les textes qui parlent de la résurrection? Entre autres, le prophète Daniel. Oui, le prophète Daniel, c'est plus tard dans l'écriture. Il disait probablement que les Sadducéens rejetaient une partie du canon. Mais je crois que cette explication, elle n'est pas bonne. Parce que, il est dit, n'est-ce pas, quand on rejette un enseignement, ça ne veut pas dire qu'on rejette tout le livre. Les Samaritains ont rejeté tous les livres. Mais d'autres rejettent un enseignement tout en gardant les livres, mais en trouvant une autre explication. En disant, oui, non, on peut expliquer ça autrement. Et c'est probablement ce qui s'est passé, puisque les Samaritains non seulement, les Sadducéens non seulement ne croyaient pas dans la résurrection, mais ne croyaient pas non plus dans les anges. Or, le Pentateuque parle beaucoup des anges. Donc, les Sadducéens ne croyaient pas dans les anges, alors même que le Pentateuque en parlait, et donc ils avaient trouvé sans doute une explication, je ne sais pas laquelle, mais une explication pour contourner cet enseignement. Et donc je crois qu'on peut dire qu'à la période du Nouveau Testament, le canon juif est clos depuis pratiquement 4 siècles, et c'est donc le témoignage de Flavius Joseph qui confirme cela. Nous passons maintenant à la troisième et dernière partie, qui sera un peu plus développée, qui concerne la traduction de la Septante. Il y a une légende qui entoure cette traduction. D'abord, il y a quelques faits qui sont sûrs. On sait que les livres de hébreux, donc de l'Ancien Testament hébreu, ont été traduits en grec, probablement autour du 2e ou 3e siècle avant Jésus-Christ, à Alexandrie en Égypte. En effet, en Égypte, à Alexandrie, il existait une grande communauté juive. La plupart d'entre eux continuent à parler l'hébreu, d'autres avaient un petit peu plus de peine parce qu'ils parlaient le grec comme tous les gens qui vivaient dans l'empire qui était conquis par Alexandre le Grand. Et puis les juifs avaient aussi à cœur de partager leurs écrits. Et donc une traduction en grec devenait importante. Donc on sait que cette traduction date à peu près de cette période, 2e, 3e siècle avant Jésus-Christ, peut-être même encore plus récente. était certain, et alors là c'est une tradition, une sorte de conte qui entoure cette traduction, qui dit ceci: à un moment donné, le roi, le pharaon Ptolémée, avait décidé d'avoir cette traduction, et il l'a commandée aux juifs, et 70 ou 72 sages se sont attelés à la tâche de traduire l'Ancien Testament en 70 jours ou 72 jours. C'est pour ça qu'on a le nombre de 70 pour cette traduction. Et que on a isolé ces sages sur une île, chacun a travaillé de manière indépendante, ils ont travaillé très rapidement, et quand ils ont mis en commun leurs travaux, quelle n'a pas été leur surprise de voir que toutes leurs traductions étaient absolument identiques. Et la petite histoire dit bien sûr qu'on y voyait là la main de Dieu. En fait, la réalité est assez différente, parce qu'on voit que la qualité de cette traduction varie énormément d'un livre à l'autre. Mais probablement qu'on a fabriqué ces petites histoires pour donner un petit peu plus de poids à cette traduction. C'était simplement du bon marketing, n'est-ce pas? On essaye de vendre un livre, on dit « Ah, mais vous savez, il a été écrit par un homme tout à fait qualifié, etc. Il faut absolument le lire. » Et là, on a un petit peu inventé cette histoire. Alors, le livre, la traduction des 70, pose un certain nombre de problèmes. D'une part, enfin, d'abord parce qu'il y a des ouvrages supplémentaires qui se trouvent dans ce canon de la Septante. Alors, suivant comment on les compte, on arrive à 7, entre 7 et 16. C'est pas parce que des fois on regroupe certains livres et puis il n'y a pas tous les livres qui sont toujours dans toutes les dans tous les manuscrits. Alors, il y a un compte plus ou moins grand de ces livres. Alors, en général, on compte le livre de Judith, de Tobit, 1 Maccabée, 2 Maccabée, le livre de la Sagesse, du Siracide, appelé aussi Ecclésiastique, le livre de Baruch, la lettre de Jérémie, et ces ouvrages qui sont mentionnés ici dans la colonne de gauche se trouvent dans les Bibles catholiques, mais la traduction de la Septante contenait aussi encore d'autres livres, pas dans tous les manuscrits, mais dans beaucoup de manuscrits. Il y avait 3 Maccabées, 4 Maccabées, 1 Esdras, 2 Esdras, qu'on appelle parfois 3 Esdras et 4 Esdras, parce que parfois on dit 1 Esdras correspond au livre d'Esdras qu'on a dans nos Bibles, le livre de 2 Esdras, ou on dit 2 Esdras pour le livre de Néhémie, 3 Esdras correspond pour certains à ce que d'autres appellent 1 Esdras, et 4 Esdras correspond à ce que d'autres appellent 2 Esdras. Hein, c'est tout simple, hein. Vous avez tout de suite compris. Et puis, il y a aussi la prière de Manassé. Et les 3 derniers ouvrages qu'on a ici sont, par exemple, inclus dans les Bibles anglicanes. N'est-ce pas? Les Bibles anglicanes contiennent les livres apocryphes qu'on trouve dans les Bibles catholiques, plus ces 3 autres livres. Et puis, 3 Maccabées, 4 Maccabées ne s'y trouvent pas. Alors c'est assez compliqué tout cela. Et puis en plus, un autre problème qui se pose, c'est que certains livres bibliques, en particulier Job, Daniel et Esther, ont subi de profondes modifications dans cette traduction de la Septante. Alors on va s'arrêter dans un petit moment à ces modifications pour voir de quel ordre est-ce qu'elles sont. Je dirais à ce stade, c'est que la Septante a reçu une grande circulation à cause des chrétiens. Les juifs l'utilisaient peu, parce qu'ils utilisaient le canon hébreu. Mais les chrétiens, c'est clair que les juifs à Alexandrie connaissaient la traduction de la Septante, mais probablement plus pour de l'évangélisation, n'est-ce pas, ou du prosélytisme, plutôt que pour eux-mêmes. Mais les chrétiens, quand le christianisme s'est rapidement développé dans l'Empire romain, dont la langue internationale était le grec, ils ont dit, il faut qu'on parle le grec. Le Nouveau Testament a été écrit en grec.